franceinter.fr. Le journal Frédéric Beniada, bonjour.
Bonjour. Barcelone et l'Espagne se recueillent et pensent ses plaies trois jours après les attentats qui ont ensanglanté la Catalogne. Une messe a été célébrée ce matin à la Sagrada Familia. Moment d'émotion et de recueillement. Nous ferons le point sur l'enquête avec nos envoyés spéciaux en Espagne. On apprend à l'instant que plus de 120 bouteilles de propane ont été découvertes dans la cage des terroristes. Et nous entendrons également la cousine de l'un des terroristes qui ne comprend pas. Nous nous rendrons dans le sud de la France pour le récit d'une nuit de galère pour des clients de la SNCF bloqués dans des train à cause d'un incendie. Nous verrons que cela ne s'arrange pas pour les étudiants. La rentrée sera encore plus chère cette année, selon la traditionnelle étude de l'UNEF. Et puis les propositions de Pierre Gattaz et plusieurs patrons pour réformer les services à la personne.
France Inter.
Mais d'abord, l'hommage de l'Espagne aux victimes des attentats de Barcelone et de Cambrils. Une messe a été célébrée ce matin à la Sagrada Familia, la grande basilique de la cité catalane, un lieu célèbre dans le monde entier. Une messe un peu particulière en présence du roi et de la reine d'Espagne et du chef du gouvernement, Mariano Rajoy, un hommage auquel vous avez assisté, Jean-François Fernandez.
La famille royale, le gouvernement, les maires des communes de Barcelone et Cambrils, c'est toute une nation qui rend hommage aux victimes des attentats. L'archevêque Juan José Omella célèbre la messe dans la Sagrada Familia, un discours d'introduction dans lequel sont répétés les mots « No tenemos miedo »,« Nous n'avons pas peur ». L'archevêque lit ensuite un message du pape François qui apporte son soutien aux familles des victimes, au peuple de Catalogne et globalement à toute l'Espagne. À la fin de la messe, dehors, le public applaudit. Nicolas de Lyon en vacances à Barcelone.
Au départ, nous venons pour visiter la Sagrada Familia. Mais toutes les visites ont été annulées et on s'est dit que c'était bien d'assister à cette cérémonie pour justement soutenir les gens, soutenir les Barcelonais parce que effectivement, ça nous a beaucoup émus.
Sonia est originaire d'Épinal. Elle ne savait pas qu'il y avait une messe hommage.
Je me suis doutée qu'il y avait quelque chose. J'ai vu un hélicoptère depuis mon hôtel et j'ai regardé sur Internet. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait une messe, donc je voulais voir l'ampleur du rassemblement, de l'émotion des gens.
Une demi-heure après la fin de la messe, de nombreux badauds restent encore devant la Sagrada Familia. Tous ont besoin d'être là, de partager cet hommage. Barcelone, Laurent Lucas, Jean-François Fernandez, France Inter.
La Sagrada Familia, l'œuvre de l'architecte Gaudi, faisait partie des cibles des terroristes, leur troisième choix après les Ramblas et la station balnéaire de Cambrils. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils sont toujours à la recherche d'un jeune Marocain de 22 ans, le conducteur de la fourgonnette qui a fauché plusieurs personnes sur les Ramblas, l'ennemi public numéro 1 en Espagne. Sa photo est aujourd'hui à la une de toute la presse espagnole. Un imam est lui aussi activement recherché par la police catalane, Thibault Lefebvre.
Abdel Baki S. Sati, un Marocain d'une quarantaine d'années, soupçonné d'avoir endoctriné puis recruté plusieurs jeunes de Ripoll au nord de l'Espagne. Jusqu'en 2012, il est enfermé dans une prison entre Barcelone et Valence pour des délits liés à la loi espagnole sur l'immigration. C'est pendant ce séjour qu'il aurait été en contact avec certains auteurs des attentats du 11 mars 2004 à Madrid. Abdel Baki S. Sati a disparu il y a environ 2 mois de Ripoll. Les enquêteurs catalans le soupçonnent d'avoir rejoint Alcanar, la ville où 120 bombes de gaz ont explosé mercredi.
Reste à reconstituer à présent, Thibault, le rôle de chacun au sein de ce réseau.
Il s'agirait de 12 hommes, dont 4 fratries, les frères Hichami, tous les deux morts à Cambrils ce jeudi soir. Les frères Oukabir, Moussa, le plus jeune, mort lui aussi à Cambrils. Idriss, qui s'est rendu à la police après l'attentat. Les frères Allah, Saïd, mort à Cambrils. Et Youssef, qui pourrait être mort dans l'explosion de la maison d'Alcanar. Et enfin, les frères Abou Yacoub, Hussein, mort à Cambrils. Et Younes, qui est aujourd'hui, vous l'avez dit, l'homme le plus recherché d'Espagne. Les enquêteurs ont aujourd'hui une certitude. Pendant 6 mois, la maison d'Alcanar a servi de base logistique à la préparation d'un attentat à la bombe. Un attentat qui était en préparation au moment où la maison a explosé. La police catalane détient aujourd'hui Mohamed Ouli Chemlal, l'unique survivant de cette explosion.
Merci Thibault Lefebvre qui suit l'enquête pour France Inter avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Pour l'heure, donc 4 personnes, dont 3 Marocains, ont été arrêtées à Ripoll, dans les Pyrénées, où auraient grandi les terroristes. 4 autres seraient en fuite. Ripoll, petit village tranquille proche de la frontière française et l'incompréhension de la cousine de Younes Abou Yacoub.
Jamais personne n'a rien soupçonné, même pas leur mère. Ils avaient une vie normale. Ils ont tout le temps vécu ici. Ils travaillaient, ils avaient leur voiture, ils partaient en vacances. Qui aurait pu croire qu'ils commettent une telle atrocité? Nous sommes meurtris comme les gens à Barcelone. Ils sont si jeunes, nous ne savions rien.
Et ce soir, c'est tout un stade qui sera derrière sa ville, au Camp Nou. Le Barça jouera son premier match face à Séville depuis ses attentats. Une minute de silence sera observée. Les joueurs porteront un brassard noir. On attend 95 000 personnes. Un autre hommage, une autre messe sera célébrée ce soir en la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'Espagne touchée par le terrorisme, mais aussi la Russie, où le groupe État islamique a revendiqué une attaque au couteau. Un homme a poignardé 7 personnes avant d'être abattu par la police. Pas de revendication, en revanche, en Finlande, après l'attaque qui a fait 2 morts et 8 blessés. Vendredi à Turku, c'est un jeune Marocain qui voulait s'en prendre à des femmes. En plein week-end de retour de vacances, ça tombe plutôt mal pour la SNCF. Le trafic des trains très perturbé dans le sud-est à cause d'un incendie toujours actif à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Près de 250 hectares de végétation sont partis en fumée depuis hier après-midi. 500 pompiers appuyés par 2 Canadair sont mobilisés. Résultat, la SNCF a dû interrompre les liaisons entre Marseille et Cassis. Tout rentre progressivement dans l'ordre. Mais hier soir, plus de 4000 passagers se sont retrouvés bloqués et certains ont dû passer la nuit dans des trains en gare de Toulon, Nice ou Marseille. En gare de Marseille, où s'est rendu Olivier Martoc.
Le problème récurrent que rencontrent les passagers est toujours le même.
Depuis hier, 21h, on est bloqué, on essaye de rentrer chez nous et on n'y arrive pas. Et surtout, on n'a pas d'informations. Mais ça, c'est dramatique.
La SNCF ne sait pas nous dire quelle solution mettre en place.
Il a dit qu'il ne sait rien.
Colère sur le manque d'informations, donc. Mais pour autant, ce n'est pas le personnel de la SNCF qui est au contact des voyageurs dans les gares ou à bord des trains qui est mise en cause.
Ils ont tous été très aimables. Honnêtement, dans le train, comme on a été longtemps arrêtés là, en nous disant qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient, quoi. Ils ont d'ailleurs cité les pompiers en disant qu'ils étaient extraordinaires pour tout le travail qu'ils faisaient. Je me demande quelles infos ils ont eux-mêmes. Hein.
Reste pour 2300 passagers 16 heures de galère et des témoignages très proches.
Hier soir, on avait un train 21h sur Toulon. On est resté dedans pendant une demi-heure au début sans information. Et puis après, ensuite, on a appris la nouvelle du feu qui bloquait la rame. On a dormi toute la nuit dans le train, donc il était climatisé. Ensuite, vers 2h du matin, on nous a servi un petit café. 8h du matin, on nous a préconisé d'aller sur la gare de Marseille en taxi. Ouais, 140 euros à nos frais, donc on va voir comment ça va se passer, quoi.
À 11h, après le feu vert donné par les pompiers, le trafic a pu redémarrer. Gare Saint-Charles, Olivier Martoc, France Inter.
Des passagers excédés, fatigués et surtout sans aucune information. Ce n'est pas la première fois que la SNCF est confrontée à ce type de situation. D'autant qu'hier soir, elle n'a pu mettre en place des bus de substitution, comme l'explique Jean-Pierre-Aimé Mougenot. Il est directeur de la SNCF pour les Bouches-du-Rhône.
Nous avons mis en place des bus dès cette nuit. Simplement, nous avions près d'une dizaine de TGV qui étaient arrêtés dans les trois gares, plus des TER. Et donc, nous avons fait le choix avec les bus qui étaient à disposition, une dizaine de bus qui ont fait des navettes entre Marseille et Toulon. Nous avons fait le choix de traiter les personnes qui étaient en situation délicate. Et bien sûr, ceux qui allaient de Marseille à Nice, Marseille à Cannes, nous leur avons demandé de patienter dans les rames dortoirs, ce qui reste sommaire, mais ils ont été avitaillés, ils ont eu de l'eau, voilà.
Et sur les routes, à présent, la journée est classée orange dans le sens des retours après un samedi rouge où l'on a compté jusqu'à 600 km de bouchons cumulés. La fin des vacances avec le rush de la rentrée, les hôtels, les résidences et les campings ont commencé à se vider ce week-end. Dernier bain, bagages, ménage et état des lieux, des départs qu'il faut gérer en très peu de temps pour les professionnels du tourisme, comme a pu le constater Charlotte Jousserand dans un camping de Murol en Auvergne.
C'est au pas de course que John arpente les allées du camping. Il doit faire 30 états des lieux en 2 heures, soit un peu moins de 5 minutes par mobilhome. C'est sportif.
Bonjour.
Vous êtes bon club, ça rigole pas. Hein.
9h pile.
Et on est carrément prêt en plus.
C'est vrai.
Arrêt au mobilhome 172, ouais. Celui de Laurence.
Oh, j'allais dire, rentrez pas avec vos baskets, je viens de nettoyer.
Je suis
on vient de nettoyer, monsieur.
Mobilhome, nickel, voiture prête à partir, comme les enfants d'ailleurs, attachés à l'arrière. Pour ce résultat, Laurence s'est levée très tôt.
Je me suis trompée d'une heure, alors 6h30 au lieu de 7h30. Bah, le ménage, terminer de tout bien replier, charger la voiture, préparer la famille,
et
voilà.
Et c'est 8 heures de route qui les attendent jusqu'à Béthune, dans le Pas-de-Calais.
Non, on est content de repartir travailler.
Merci beaucoup. Bon retour.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
John, lui, continue sa tournée. Mobilhome 204, 169. Pour éviter d'être débordé, Pierre Simon, le gérant, essaye d'équilibrer les week-ends.
On fait aussi quelques départs et on essaye de mettre en place les départs et les arrivées le dimanche pour que les gens évitent d'avoir les bouchons sur la route et nous d'avoir tout le monde, toute l'affluence tout au cours de la saison, tous les samedis.
Et au mois d'août, environ 40% des vacanciers partent du camping le dimanche.
Fin de vacances et une rentrée toujours plus chère pour les étudiants. L'UNEF publie aujourd'hui sa traditionnelle enquête annuelle. Le coût de la vie pour les étudiants va augmenter de plus de 2%. C'est trois fois plus que l'inflation, Delphine Evenou.
Oui, chaque année, l'UNEF fait le même constat, même si pour cette rentrée, la hausse du coût de la vie étudiante est plus marquée. Et chaque année, ce sont les deux mêmes facteurs qui plombent le budget des étudiants. D'abord, bien sûr, le logement, qui représente plus de la moitié des dépenses. 670 euros en région parisienne, 410 euros ailleurs. Alors qu'à partir d'octobre, les APL vont baisser de 5 euros et que l'encadrement des loyers est loin d'être généralisé. Une fois que cette somme est ponctionnée, il reste les transports, l'autre gros poste du budget, 267 euros par an en moyenne, avec deux mauvais élèves, l'Île-de-France, mais aussi Lyon, Dijon, Rennes et Tours, quand Toulouse permet aux étudiants de se déplacer pour 100 euros par an. On peut donc faire des choix politiques, tonne l'UNEF, le syndicat qui rappelle aussi que pour ne pas se retrouver trop dans le rouge, près de la moitié des étudiants est obligé de travailler, parfois plus qu'un simple mi-temps, au moins 24 heures par semaine qui ne sont pas consacrées aux études. Être étudiant coûte de plus en plus cher, le constat n'est donc pas nouveau, mais pour cette rentrée d'année présidentielle, l'UNEF s'inquiète de l'absence de signaux positifs envoyés par le gouvernement à la jeunesse.
Delphine Evenou et tous les chiffres de cette étude à retrouver sur franceinter.fr. Dans une tribune au journal du dimanche, plusieurs grands patrons réunis autour de Pierre Gattaz proposent de rénover les services à la personne. Ils réclament une réforme au gouvernement et souhaiteraient que les banques avancent la moitié de la rémunération des femmes de ménage, des nounous ou tout autre emploi domestique, une mesure qui permettrait selon eux de créer plusieurs milliers d'emplois. La police des polices saisie dans le Loiret. Hier soir, un homme qui avait menacé de tuer des fonctionnaires avec un couteau a été abattu lors de son interpellation près de Montargis. L'individu était connu pour des troubles psychiatriques. Eric Normand.
Dans le contexte actuel, l'hypothèse d'un attentat terroriste a d'emblée été écartée. L'homme est connu des services de police, il est sous traitement médical pour des troubles psychiatriques. Une habitante d'un immeuble appelle la police pour se plaindre de nuisances sonores. Ils sont trois à se rendre au domicile de celui qui en serait responsable. Mais l'homme s'est réfugié dans sa voiture. Les policiers tentent dans un premier temps de lui faire entendre raison pour le faire sortir. Rien n'y fait, l'individu exhibe un couteau, menace de tuer les fonctionnaires et même de placer des bombes dans toute la ville. Mais l'homme, toujours dans sa voiture, fait marche arrière et il percute plusieurs fois le véhicule des fonctionnaires positionné juste derrière. L'homme parvient à prendre la fuite alors qu'il fonce sur eux. Les policiers font feu. Le chalettois roule sur quelques centaines de mètres dans l'herbe. Il finit sa course dans un bassin de rétention, le pare-brise criblé de balles. L'individu est mort des suites de ses blessures. En fin d'après-midi, le parquet a l'intention de saisir la police des polices. Eric Normand, France Bleu Orléans pour France Inter.
Suite et fin ce soir de la troisième journée du championnat de France de football de Ligue 1 avec trois matchs au programme. Lille accueille Caen à 15h, Marseille reçoit Angers un peu plus tard à 17h. En attendant, la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Toulouse à 21h et cette fois le Brésilien Neymar, acheté plus de 220 millions d'euros, fera ses grands débuts au Parc des Princes pour la plus grande joie des supporters du PSG. Ils ont écumé les mers pendant des siècles. Corsaires, pirates, flibustiers ont allègrement pillé les navires marchands. Aujourd'hui, à travers films ou séries, ils nous fascinent, mais à l'époque, ils semaient la terreur et la mort. Les flibustiers, eux, ont sévi plus particulièrement dans les Antilles, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et c'est à ces hommes que Jacques Gassard a consacré son dictionnaire des Caraïbes. Jacqueline Pétrose.
Trouve Sparrow pour moi.
Difficile de ne pas évoquer, bien sûr, Jack Sparrow et Johnny Depp en parlant de pirates. La réalité était à la fois différente et tout aussi pleine d'aventures. En donnant vie à Pierre Godefroy, à Duchesne, à Jean Lemont et à une centaine d'autres, Jacques Gasser, en portrait court, imagé et très informé, raconte l'histoire de la guerre qui opposa la France, l'Angleterre et les Pays-Bas à l'Espagne pour les possessions de ces terres des Caraïbes, pleines de nouvelles épices, de filons d'or et d'argent. Les temps étaient rudes et sans pitié. En tête de chapitre, les épitaphes tiennent en quelques mots, dates et lieux de naissance et de décès inconnus ou pendus à la Jamaïque ou au Suriname. Abordage de galions, attaques de forts et de ports, les noms des villes résonnent toujours. Santiago de Cuba, Cartagène, La Veracruz ou Maracaibo. Les flibustiers, face aux Espagnols, protègent à leur façon la Guadeloupe, la Martinique ou Saint-Domingue. Fracas des épées, poudre des canons et morts souvent violentes. Certains ont écrit leur vie, d'autres sont entrés dans la légende. Avec ce dictionnaire de Jacques Gasser, plein de bruit et de fureur, nous nous lançons à la poursuite de ces hommes cruels et courageux, à l'aventure et bon vent.
Le dictionnaire des flibustiers aux éditions de Beaupré. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.